Très content de continuer cette thématique, tout simplement Jésus. Un merci spécial aux hommes de Moz ce matin. C'était beau de vous voir à l'arrivée ce matin impliqués dès 8h30, un dimanche matin. Good job les boys, on peut vous applaudir. Merci messieurs. Ce matin, on continue la thématique tout simplement Jésus. Et je suis tombé sur cette semaine qui s'appliquait très bien au message. Mais juste avant, avec votre permission, on va juste prier. Seigneur Jésus, merci. Qui suis-je pour pouvoir partager ta parole avec mes frères et sœurs ce matin? Seigneur, tout est à propos de toi. Et on veut, Seigneur, nous rappeler que c'est toi qui sauve, c'est toi qui change, c'est toi qui touche, c'est toi qui guéris. Et tout est à propos de toi. On a élevé ton nom ce matin dans la louange et on veut continuer d'élever ton nom en louange ce matin, avec la prédication, mais aussi avec l'application de la prédication lorsqu'on va quitter la réunion de ce matin. Merci pour qui tu es. Amen. Sheryl Sandberg a été directrice des opérations à Facebook, une petite entreprise locale, je vous ai peut-être entendu parler. Elle a travaillé là pendant plusieurs années, gagné environ 26 millions de dollars par année. Comme dirait ma belle-mère, elle n'était pas à pied. Dans l'une de ses conférences, elle expliquait comment les femmes devaient se comporter pour se hisser au sommet de leur profession. Selon elle, les femmes devaient s'inspirer des hommes. Non que les hommes soient plus intelligents, pas du tout. C'est même tout le problème. Ce ne sont pas les hommes qui freinent les femmes, disait-elle. Ce sont les femmes qui freinent les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes sont plus intelligentes. Elles écoutent plus attentivement ce qui se dit. Elles répondent de manière plus réfléchie. Elles écoutent les suggestions, elles répondent aux questions, elles résolvent les problèmes. Les hommes n'ont pas ce genre d'attitude. Ils n'écoutent personne. Il y a des coups de coude qui se donnent présentement, je m'excuse. Ils sont uniquement préoccupés par ce qu'ils veulent. Ils obtiennent ce qu'ils veulent. Les hommes n'ont pas la même retenue que les femmes. Cheryl avait eu une confirmation éclatante à l'occasion d'une allocution qu'elle avait prononcée devant quelques 200 hommes et femmes. Elle donne des conférences à travers le monde. Et après son discours, elle avait échangé quelques mots avec l'une des femmes de l'auditoire. Elle avait demandé à celle-ci ce qu'elle avait pensé de son propos. Et voici la réponse de la femme. « J'ai appris que je vais désormais lever la main, même si je sais que ça ne se fait pas », lui avait répondu la femme. Sheryl Sandberg lui avait demandé ce qu'elle voulait dire par là. La femme a répondu, « Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, Cheryl, mais avait dit la femme, vous n'avez peut-être pas remarqué, à la fin de votre allocution, vous avez annoncé que vous répondriez à quelques questions seulement. Toutes les personnes présentes vous ont posé des questions, hommes et femmes. Au bout d'environ 20 minutes, vous avez indiqué que vous ne répondriez plus qu'à deux autres questions. Après ces deux questions, les femmes ont tout naturellement arrêté de lever la main. Mais les hommes ont continué à lever la main et vous avez continué à répondre à leurs questions. Les femmes n'ont pas pu poser des questions parce qu'elles ont respecté les règles. Les hommes ont pu poser des questions parce qu'ils ont enfreint les règles. Je m'en souviendrai à l'avenir, dit Cheryl. Je lèverai ma main, dit Cheryl, dit cette femme en fait. Je lèverai ma main même si je sais que ça ne se fait pas. Cheryl avait été estomaquée. Elle n'avait pas pris conscience de son attitude. Elle-même qui était une femme qui se défendait le droit des femmes, elle avait compris alors pourquoi les hommes s'étaient tant imposés. Ils s'étaient approprié le pouvoir sans demander la permission de personne. Ils avaient foncé et agi comme ils le voulaient, comme ils étaient habitués de le faire. Contrairement aux femmes, les hommes n'avaient pas peur d'avoir tort. Ils avaient été plus importants pour eux de se faire entendre que d'avoir raison. C'est là que réside le problème d'être femme, disait Cheryl dans sa conférence. Le seul obstacle qui les arrête, elles sont trop intelligentes, elles respectent trop les règles, elles sont attentives aux détails, elles essaient constamment d'être justes. Cette attitude est propre aux femmes, mais elle devrait faire réfléchir tout le monde, avait conclu Sheryl Sandberg. Réfléchir, c'est bien, trop réfléchir, c'est les moins. Cette histoire s'applique tellement au texte qu'on va regarder ce matin. Parce qu'on va regarder l'histoire d'une femme qui n'a pas respecté les règles, alors qu'on impose souvent ça aux femmes. Puis je veux prendre le temps, parce que la semaine prochaine, c'est pasteur Cathy qui va apporter la prédication, prédicatrice de feu. Ne manquez pas ça, hommes et femmes. La semaine prochaine, on va honorer les femmes, mais je voulais qu'on prenne le temps de le faire ce matin. Mesdames, levez-vous. Levez-vous, mesdames. Vous êtes essentielles à nos vies. Vous êtes essentiel à notre Église. Vous êtes essentiel à la société. La société ne fonctionnerait pas bien sans vous. Et nous, les hommes, c'est vrai qu'on parle trop. C'est vrai qu'on s'impose trop. C'est vrai qu'on doit faire plus de place. Je ne serais pas l'homme que je suis sans ma femme, sans ma mère, sans mes sœurs. Messieurs, est-ce qu'on peut honorer les femmes, s'il vous plaît? Oui. Merci, mesdames. Plus que ça, messieurs, vous êtes capables. Come on, les boys. Come on, come on. Merci, mesdames. Puis prendre place. Et dans cette histoire qu'on va regarder, on voit justement une femme qui n'a pas respecté les règles que la société lui imposait. Ça va être dans Luc 9, 40 à 48. Ça va apparaître à l'écran. À son retour en Galilée, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. À ce moment, survint un homme appelé Jaïrus. C'était le responsable de la synagogue, le pasteur à l'époque. Il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia de venir chez lui. Sa fille unique, âgée d'environ 12 ans, était en train de mourir. Jésus partit donc pour se rendre chez lui. Cependant, la foule se pressait autour de lui. Il y avait là une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien chez les médecins sans que personne ait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha la frange de son vêtement. Aussitôt, son hémorragie cessa. Qui m'a touché? Demanda Jésus. Comme tous s'en défendaient, Pierre lui dit, « Voyons, Jésus, maître, la foule t'entoure et te presse de tous côtés. » Mais Jésus lui répondit, « Quelqu'un m'a touché. J'ai senti qu'une force sortait de moi. » En voyant que son geste n'était pas passé inaperçu, la femme s'avança, toute tremblante, se jeta aux pieds de Jésus et expliqua devant tout le monde pour quelle raison elle l'avait touché et comment elle avait été instantanément guérie. Jésus lui dit, « Ma fille, parce que tu as cru en moi, tu as été guérie. Vas en paix. » Résumer un peu l'histoire qu'on vient de lire. Hein? Jésus est en direction de Galilée, et Jaïrus, ce pasteur, cet homme religieux, vient le voir, s'agenouille devant lui et dit, « Jésus, ma fille va mourir, ma fille de 12 ans va mourir, s'il te plaît, viens la guérir. J'ai entendu parler de toi, j'ai entendu que tu guérissais les gens. Peux-tu venir prier pour ma fille? » Jésus se dirige vers la maison de Jaïrus pour aller guérir sa fille, alors que la foule est là, alors que les gens le pressent, alors que les gens le tirent. Il y a cette femme qui avait entendu parler de Jésus, qui brise les règles pour venir toucher la frange de son vêtement, le bout de son vêtement. Et cette femme est instantanément guérie. Mais Jésus prend le temps de s'arrêter. Alors que la foule est autour, alors que la foule le pousse, le tire, il dit, « Non, non, il y a une force qui m'a touché. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelqu'un avec qui j'ai eu une interaction particulière. » Jésus prend le temps de se tourner vers cette femme. Il prend le temps il veut qu'elle lui raconte son témoignage à tous ceux qui sont présents. Jésus est intentionnel. Et cette femme explique. Et Jésus lui dit, « Ma fille, parce que tu as cru en moi, tu as été guérie. Va en paix. » Le titre de mon message ce matin, c'est « Prends courage, Jésus peut te guérir. » On le fait rarement à Mosaïque, mais tu peux dire à la personne à côté de toi le titre du message. « Prends courage, Jésus veut te guérir. » Dis à ton voisin, « Prends courage, Jésus peut te guérir. » Je suis un homme, et je vous avoue que j'ai eu un certain malaise lorsque j'étudiais ce texte-là. Je me disais, je ne peux pas comprendre à 100% ce que vivait cette femme qui avait cette maladie, qui avait cette perte de sang depuis 12 années. Je ne peux pas comprendre. Mais j'ai été élevé par une femme. J'ai eu deux sœurs. Je suis marié depuis 14 ans. Et je sais que lorsqu'une femme veut quelque chose au nom de Jésus, elle va l'avoir. Pas vrai, messieurs? Je suis un homme. J'ai été élevé par une femme. J'ai deux sœurs. Je suis marié depuis 14 ans. Et je sais que lorsqu'une femme est dans la fameuse semaine, ma seule option pour rester en vie, c'est lui obéir. Pas vrai, messieurs? Blague à part, ce que cette femme vivait, c'était une souffrance. Depuis 12 années, cette femme souffrait. Selon les évangiles, elle souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Puis les textes bibliques ne précisent pas nécessairement qu'est-ce que cette femme avait. On ne peut pas savoir exactement qu'est-ce qu'elle avait comme maladie. Il n'y a pas la précision. Mais les historiens et spécialistes de la médecine antique suggèrent que c'était une maladie gynécologique comme une fibrome ou une endométriose ou une maladie du sang comme l'hémophilie. Et c'est important, un texte hors de son contexte devient un prétexte. C'est important de se mettre dans le contexte historique, le contexte biblique de ce que cette femme vivait. Puis les symptômes qu'elle aurait pu avoir, c'était des saignements menstruels abondants, prolongés, irréguliers. Elle avait des douleurs pelviennes ou abdominales pouvant s'aggraver pendant les règles. Pas juste une semaine, elle, c'était son quotidien. Elle avait une sensation de pression, de douleur dans le bas-ventre ou aux abdominaux. Elle, une journée comme aujourd'hui, elle prend une marche téléphone, mais elle avait des douleurs. Ça, c'était sa vie. Elle avait un besoin fréquent d'aller à la salle de bain pour uriner parce qu'elle avait une pression constante sur sa vessie. Constamment des interruptions dans ses interactions sociales. Elle pouvait parler avec quelqu'un, puis elle devait régulièrement aller à la salle de bain. Imaginez le poids de sa vie. Une amie pouvait lui confier quelque chose et elle disait, je m'excuse, je sais que c'est profond ce que tu me dis, mais je n'ai pas le choix d'aller à la salle de bain. Imaginez cette vie. Elle était constamment fatiguée. Constamment, elle avait de la fatigue chronique, donc c'est sa vie. Imaginez les activités sociales, elle devait prévoir faire des activités à certains moments parce qu'elle était trop fatiguée. Elle avait des douleurs. On présume qu'elle avait des douleurs liées à la digestion, qu'à chaque fois qu'elle mangeait quelque chose ou qu'elle mangeait trop quelque chose, elle pouvait avoir des douleurs dues à la digestion. Imaginez au resto, toujours pouvoir te priver, faire attention à ton alimentation. Il y a des choses que tu peux manger, des choses que tu ne peux pas manger. Cette femme-là devait être infertile. Le texte ne souligne pas qu'elle avait un mari qui prenait soin d'elle. Le texte aurait pris le temps de le souligner, mais non. On peut imaginer qu'elle ne pouvait pas avoir un homme dans sa vie et avoir des enfants, parce qu'on peut présumer qu'un homme à l'époque ne voulait pas s'engager avec elle parce qu'il ne pouvait pas avoir d'héritier. Sa condition la rendait impure. Selon l'époque, selon le contexte biblique, religieux de l'époque, si quelqu'un était en contact avec elle, la personne pouvait devenir impure. Cette femme était exclue de tout le monde, de sa famille, d'un potentiel travail. Sa maladie affectait sa situation économique, professionnelle. Elle ne pouvait pas travailler, Et à l'époque, les gens allaient voir des médecins, allaient voir toutes sortes de médecins pour voir, OK, mais peut-être qu'avec lui, j'ai entendu parler de tel médecin, il allait à gauche, à droite. Et les médecins leur donnaient un traitement qui des fois fonctionnait, des fois ne fonctionnait pas. Et les gens allaient de traitement en traitement et ça amplifiait les conséquences, ça empirait sa situation. Mais le pire, c'est que sa maladie affectait sa spiritualité. Parce que selon Lévitique 15, 25, 30, elle était considérée comme impure et pas digne de s'approcher d'un rabbin, d'un homme religieux comme Jésus. Mais en plus de ça, elle ne pouvait pas aller à l'église, aller au temple. Elle était considérée comme impure. Elle ne pouvait pas louer Dieu comme tout le monde. Elle ne pouvait pas aller à l'église puis juste louer Dieu malgré sa souffrance. Non, elle devait rester chez elle, éloignée, à l'écart. Mais elle a décidé de transgresser les règles. Elle était tannée. Elle a décidé de ne pas respecter la norme. Et même si ce texte raconte l'histoire d'une femme, ça s'applique à nous aujourd'hui. Chacun d'entre nous, on doit être interpellé par le courage, la ténacité et la foi de cette femme. Parce qu'on a tous eu besoin dans notre vie d'une guérison. On a tous eu besoin d'une guérison, que ce soit physique, émotionnel, en lien avec une dépendance ou même d'une guérison spirituelle. On a tous eu besoin. Et on a tous nos règles. On a tous des choses qu'on dit, moi j'ai toujours fait ça comme ça, je ne veux pas changer, j'ai toujours fait ça comme ça. On a tous des règles qui nous empêchent des fois de faire le pas de foi, d'utiliser notre courage. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Est-ce qu'on va me juger? Et que ça nous empêche dans un carcan ou ça nous empêche d'accéder au cœur de Dieu. Et trois points ce matin qui résument mon message. Tu peux déranger Jésus. Tu peux toucher son cœur et tu peux avoir cette paix. Qu'est-ce que le texte nous dit? Elle entendit parler de Jésus. J'imagine qu'elle a entendu, mais elle était toujours reclue, hein, comme on le disait, elle était toujours à l'écart, mais elle a entendu parler, elle entendait les gens parler d'un certain Jésus, puis de chez elle, elle entendait, ou elle sortait un peu à distance, mais elle entendait parler de ce Jésus. Ça fait 12 ans qu'elle essayait. Ça fait 12 ans qu'elle cherchait une réponse. Mais malgré ça, elle a entendu parler de Jésus, puis il y avait encore l'espoir dans son cœur. Elle a entendu parler de ce Jésus, puis il y avait encore l'espoir. Elle aurait pu dire, ça sert à quoi? J'ai tout donné, j'ai tout dépensé. C'est un charlatan comme les autres. C'est un autre. Il est comme les autres médecins qui ont profité de moi, puis qui ont pris mon argent. Mais elle, non, il y avait encore l'espoir dans son cœur. Puis je vais être honnête avec vous. Oui, je suis pasteur, mais je suis humain comme vous. C'est vrai que c'est dur à comprendre que Jésus peut être disponible pour tout le monde. C'est dur pour notre cerveau, des fois, de le comprendre. Puis des fois, on veut prier, ou on a besoin de guérison. Mais est-ce que Dieu va m'écouter vraiment? Mon problème est plus petit que ceux des autres. Est-ce que je peux le déranger? Mais oui, tu as le droit. Oui, tu peux. Et on a aussi la perspective de Jaïrus, hein? Que lui, qui est un homme religieux, qui est un homme qui est proche de Dieu, mais lui, il va déranger Jésus. Lui, il n'est pas gêné d'aller déranger Jésus, de s'agenouiller devant lui. Et alors que la foule est là, alors que la foule est en train de tirer Jésus, puis Jésus, qui est censé être la réponse de Jaïrus, il dit, « Hey, il y a quelqu'un qui m'a touché. » Il met le problème de Jaïrus en pause, parce qu'il y a quelqu'un qui t'a touché. Imaginez Jaïrus qui se dit, « Est-ce qu'il est normal, ce gars-là? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que je suis allé voir la bonne personne? » Mais on est comme Jaïrus des fois. De se dire, « Est-ce que tu m'as oublié? Est-ce que tu m'as mis en pause, Dieu? » Mais je veux t'encourager ce matin et te dire, « Tu peux le déranger. » Il ne t'a pas oublié, il veut prendre soin de toi, et il veut être à ton secours, peu importe ton besoin, la guérison que tu as besoin. Puis Jésus s'arrête. Jésus prend le temps de s'arrêter pour cette femme, alors qu'il aurait pu être un politicien, puis dire, cette femme-là n'est pas importante. Jaïrus, parce que Jaïrus, ça va m'aider. Puis si je vais guérir la fille de Jaïrus, je vais gagner cette population-là, puis je vais avoir plus d'impact. Mais non, 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 Jésus dit, c'est bon, Jaïrus, mais tu es aussi important que cette femme. Il s'arrête. Et peut-être que tu as cette conception de, moi, je suis pas assez saint, je suis pas assez parfaite pour déranger Jésus. Je veux dire, oui, tu as le droit de le déranger à tout moment de la journée. En fait, tu le déranges jamais. Tu ne le déranges jamais, tu as toujours le droit de venir le voir, c'est ton père, il t'aime, Jésus est ton ami, il t'aime, tu peux te confier à lui. Il ne veut pas seulement guérir, il veut aussi qu'on sache que c'est la foi qui est la première étape de guérison. Jésus est intentionnel, il sait, il savait qu'il lui avait touché, il savait. Jésus est Dieu, il est omnipotent, omniscient, il sait tout, il savait. Mais il voulait juste enseigner ce qui était autour. Il voulait même enseigner Jaïrus, de dire, ce que je veux faire avec elle, ce que j'ai fait avec elle, la guérison qu'elle a eue, ça va venir pour ta fille. Jésus prend le temps de nous enseigner que la foi, c'est tellement essentiel qu'on doit, si tu veux voir une guérison, ça commence par la foi, par croire en Dieu. Puis peut-être que tu n'as pas les mots parfaits. Tu dis, c'est quoi la foi? Je ne comprends pas, ça ne fait pas longtemps que je marche avec Dieu. Ou c'est quoi la foi? C'est abstrait pour moi. Mais je veux te dire, développe ta foi petit à petit. Dans tes mots à toi. Dans la simplicité. Cette femme-là, elle n'a pas énuméré l'Ancien Testament au complet. Non, non, non. Elle l'a seulement touchée. Juste par tes mots à toi, simplement là, avec tes mots, dans tes mots à toi, puis Jésus va entendre et ça va être assez pour le déranger, ça va être assez pour avoir son attention. Tu penses que tes problèmes sont trop petits ou tes problèmes sont trop gros. Mais Jésus, la Bible nous dit qu'il intercède. Il prie constamment pour ses enfants. Il prie pour nous sans arrêt. On n'est jamais en train de le déranger. Puis oui, tu peux le déranger, tu peux aussi toucher son cœur. Les hommes juifs portaient des cordons torsadés. C'était une robe qu'ils portaient. Et il y avait un tissit au bout. C'était un peu un indicateur. Il y a même des hommes juifs qui portent ça aujourd'hui. Et c'était un peu un indicateur pour dire que tu étais un homme de Dieu. Et lorsque on voyait ça, on voyait ta robe, on voyait les fils qui pendaient au bout, c'était une représentation que tu étais un homme de Dieu. C'était pour te démarquer. Et Jésus, c'était parenthèse importante, Jésus prend le temps de se conformer. Jésus, il sait qu'il est Dieu. Et on le voit avec ses miracles, à quel point il est Dieu, puis il est unique. Il n'est pas obligé de porter le tissit, mais il le porte quand même. Il est porte pour être remarqué, pour qu'on le voit. Et la femme, à travers la foule, ça l'a aidé justement de reconnaître Jésus. Et elle a seulement touché la frange. Elle a seulement touché un bout de fil. Mais Jésus, lui, il a senti que quelque chose se passait. Et cette petite femme, de cette simple femme qui est humble, qu'on ne connaît même pas son nom, on n'a même pas son nom, la guérison est venue. Tellement de contraste dans ce texte. Seulement en touchant cette petite partie de vêtement, elle a eu une grande guérison. Un homme vient pour la guérison de sa fille et une femme vient pour une guérison personnelle. La fille de Jaïrus avait seulement 12 ans et allait mourir. Cette femme avait souffert pendant 12 années et elle voulait une guérison. Jaïrus, on nomme son nom. Il est un homme respecté, admiré. Et elle, personne ne la connaît. Puis elle est à l'écart. Mais les deux avaient besoin de toucher son cœur. Les deux avaient besoin d'une guérison. Ça s'applique tellement à nous, dans notre société des fois, où on pense, ou dans notre société chrétienne même, on peut penser que, « Oh, mais toi, pasteur, Dieu répond à toutes tes prières. » Non, pas du tout. Et moi, j'ai besoin constamment, chaque jour, d'aller toucher son cœur, d'aller voir Dieu, d'aller dans sa présence. On a tous besoin. Et il répond à tes prières. Il va répondre à tes prières. Il peut répondre à tes prières comme il fait pour moi. Jaïrus a été témoin de ce que cette femme a vécu. Ça l'a tellement encouragé. Puis combien de personnes dans la salle, t'as déjà été témoin d'une guérison, d'un changement, d'un miracle que Dieu a fait? Ça t'a encouragé, ça a stimulé, motivé ta foi. Et moi, j'aime lire la Bible, mais j'aime la contextualiser aussi aujourd'hui. Si Jésus venait aujourd'hui, qui faisait des miracles, et qui venait sur terre à Québec, pourquoi pas, et qui allait, par exemple, chez Ashton pour acheter une poutine. Imaginez la foule qui serait là, les gens qui seraient là. Mais c'est arrivé à Montréal, il y a environ un an de cela, il y a une influenceuse qui est partie de la France, puis elle était de passage à Montréal, et elle a dit sur les réseaux sociaux à toutes ses fans, « Les amis, je vais être au YW, suivez-moi, venez me voir! » Et ça a été la folie, tout le monde est venu au YW, il y a des gens qui ont été blessés, il y avait une foule, la police a dû venir, c'était fou là. Mais ça nous ramène justement cette image-là au contexte, à quel point il y avait des gens, il y avait de la foule, il y avait la « wow », c'était le brouhaha, tout le monde voulait voir Jésus, lui parler, dire qu'ils étaient avec Jésus, j'ai vu Jésus. Mais c'était une chose d'être dans la foule, c'était une chose d'être dans la salle, c'est une chose d'être présent, mais c'est une autre de toucher son cœur. C'est autre chose d'avoir cette guérison-là, cette guérison qui est personnelle, c'est autre chose pour cette femme. J'aime cette citation de Winston Churchill qui dit « Le courage, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre l'enthousiasme. Le courage, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre l'enthousiasme. » Cette femme, elle avait du courage. Cette femme, elle a justement imaginé les échecs qu'elle a accumulés pendant 12 années, 12 ans. Des fois, moi, j'ai un peu mal aux genoux puis je pleure pendant 12 heures. Mais elle souffre pendant 12 ans, mais elle prend son courage. Et malgré les déceptions, malgré les trahisons, malgré l'écart, malgré les retraits, elle ne perd pas courage. As-tu perdu le courage? Tu as un besoin, une situation, tu as besoin d'une guérison quelconque, et tu as perdu courage. Je veux t'encourager ce matin. Si cette femme a eu sa réponse, si cette femme a été guérie, je crois avec conviction que tu peux l'être toi aussi. Tu ne dois juste pas perdre courage, tu ne dois juste pas abandonner. Cette femme a été guérie de cette perte de sang parce qu'il y avait seulement une personne qui allait perdre son sang à la croix. Il y a une personne qui l'aimait tellement, qui était prêt à tout sacrifier. Et j'aime la croix parce que la croix, c'est personnel et c'est universel. Et oui, des fois, on a la misère à comprendre. Oui, mais est-ce que Dieu peut répondre à mes prières et à les prières de tout le monde? Mais je veux juste te dire, il y a juste lui qui est mort à la croix. Il y a juste lui qui est mort, il y a juste lui qui est ressuscité pour nous, par amour pour nous. Ça, c'est une bonne nouvelle, Mosaïque. On peut applaudir Jésus, ce qu'il fait. Et parce qu'il a perdu son sang à la croix pour nous, non seulement tu as accès à son cœur, mais il peut vivre dans le tien. Non seulement tu as accès à son cœur, mais il peut vivre dans le tien. C'est pour ça que tu peux avoir justement cette paix. Puis je veux en parler ce matin. Je sais qu'il y en a, peut-être que vous avez différents backgrounds théologiques et différentes églises. Puis ce matin, je parle un peu de guérison. Même de parler de ce texte-là, ça te met un peu mal à l'aise parce que tu te dis, est-ce que la guérison, ça existe encore aujourd'hui? Est-ce qu'on peut? Etc. Puis moi, j'ai été dans différents milieux. Hein. J'ai été dans une église beaucoup plus charismatique que Mosaïque. Et aujourd'hui, je suis à Mosaïque et par exemple, les dons de l'esprit sont pratiqués complètement différemment. Donc, j'ai vu différents spectres. Tu sais, j'ai des amis qui sont baptistes, des amis pentecôtistes, donc tout ça. Donc, j'ai développé un peu ma réflexion théologique et aussi avec les Écritures. Mais je crois que profondément que Dieu guérit. Je crois qu'en 2023, Dieu guérit. Dieu guérit physiquement. Oui, justement, on va regarder une petite vidéo d'une guérison qui a pris place sur YouTube. Il n'y a pas de vidéo, malheureusement. Mais on pourra faire un tour dans la salle, faire un vox pop pour savoir, est-ce que vous connaissez des gens qui ont été guéris? Est-ce que vous avez été guéris? Puis on pourra avoir des témoignages de guérison incroyables. Et dans notre société, on vit dans une société sensationnaliste. Mais à l'époque aussi, il y a plusieurs personnes qui étaient dans la foule qui voulaient juste voir, qui voulaient juste voir les miracles, qui voulaient juste voir et qui, honnêtement, s'en fichaient un peu de Jésus. Jésus raconte une histoire qui est vraie, des 12 lépreux. Et Jésus guérit 12 lépreux. Il prend le temps de guérir 12 lépreux. Et la lèpre, c'était encore pire que ce que cette femme vivait, la femme à la perte de sang. La lèpre, t'étais à l'écart, c'était une abomination. C'est comme si tu avais le plus pire des péchés sur toi. Et Jésus prend le temps de guérir 12 lépreux. Mais un seul lépreux revient voir Jésus pour lui rendre gloire, pour le remercier. Un seul. Et Jésus prend le temps de souligner, de dire à ses disciples, combien sont revenus sur les 12? Un seul. Donc, des fois, oui, la guérison physique, c'est bien, mais ça ne veut pas dire que parce que les gens sont guéris physiquement, qu'ils vont accepter la guérison spirituellement. Puis attention, moi je crois qu'il faut faire attention au déséquilibre. Parce que dans des églises, on est allé avec l'extrême au niveau de la guérison. Il y a juste la guérison dans nos églises, la guérison. Mais on ne parle pas aussi de d'autres choses qui sont hyper importantes. Mais il y a aussi l'extrême. Où est-ce qu'on est mal à l'aise avec la guérison, fait qu'on n'en parle pas jamais. On parle juste de « accepte Jésus, la bonne nouvelle de Jésus », mais on ne parle pas de la guérison. Cependant, moi je suis convaincu que la guérison la plus importante, c'est la guérison spirituelle du cœur d'une personne qui accepte Jésus pour aller au ciel. Ésaïe dira, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et il parle des meurtrissures de Jésus, il parle de Jésus qui est mort à la croix. Donc la plus grande des guérisons, c'est d'avoir accepté Jésus dans son cœur et de marcher avec lui. Même l'apôtre Paul n'a pas été guéri. Alors que lui-même priait pour des gens étaient guéris, mais lui-même, il dit, non, je n'ai pas été guéri, puis il l'acceptait, il y avait une acceptation face à ça. Moi, j'ai un ami qui est mort du cancer à 30 ans. Il a été guéri du premier cancer, mais pas du deuxième. J'avoue que j'ai eu des incompréhensions, de la colère envers Dieu même, je suis capable de le dire. Mais j'ai aussi cette paix, sachant que la plus grande des guérisons, il l'a eue, parce que je vais le voir au ciel. Et c'est ça la plus grande des guérisons, la plus importante. Il ne faut pas qu'on tombe dans le panneau, justement, des fois, d'oublier quelle est la guérison la plus importante. Mais Dieu reste amour, même si mon ami n'a pas été guéri. Dieu reste amour, même si on va prier pour toi, on peut prier pour toi, et tu n'es pas guéri, Dieu reste amour, puis il est fidèle. Des fois, il ne répond pas. Et on ne sait pas pourquoi. Mais il reste amour quand même, il faut quand même l'accepter. Jésus n'a pas guéri tout le monde lorsqu'il est venu sur terre. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas bon. Le contraste, je vous parle de mon ami, c'est qu'il y a des gens qui vont vivre jusqu'à 100 ans. Lui est mort à 30. Mais il y a des gens qui n'iront pas un jour rencontrer ce Jésus comme moi parce qu'ils n'ont pas accepté cette guérison personnelle. Puis on met souvent l'emphase pour la guérison des gens qui voyaient pas et qui voient, puis, etc. Mais j'y crois. Mais pour moi, une des plus belles formes de guérison, c'est de voir quelqu'un comme Christian Caillé. T'es où, Christian? Christian est en arrière. Christian est un homme de Dieu. Un homme exceptionnel, un célibataire, je tiens à le souligner. Et Christian a été dépendant pendant 6 années. Et lui, il dit, c'est une guérison. Il a été complètement guéri. Mais aujourd'hui, c'est un homme de Dieu qui partage sa foi, qui fait de l'évangélisation dans les rues, qui partage la plus importante des guérisons, qui est une bénédiction pour Mosaïque, qui est toujours de bonne humeur. Moi, avant de prêcher, je l'ai vu vendredi, puis je suis allé le voir. Christian, encourage-moi, amen, merci d'exister. Puis on est béni parce qu'il a accepté cette plus grande des guérisons. Et si on revient au texte de ce matin, quand Jésus dit à cette femme, « Ta foi t'a sauvée », ce qu'il dit, c'est « Tu es complètement guéri ». Dans l'étymologie du texte, c'est tu es complètement guéri. C'est oui, tu as une guérison physique, mais tu as surtout une guérison spirituelle. Parce que cette femme-là, qui n'avait pas accès à la religion, pas accès au temple, elle a rencontré son sauveur et elle a été complètement guérie. Et si cette femme l'a fait, si cette femme a utilisé son courage, ce matin, je vais t'inviter à le faire. Ce matin, je vais t'inviter à l'appliquer, toi, dans ta vie. Tu as besoin d'une guérison physique. On va prier pour toi ce matin. Tu as besoin d'une guérison émotionnelle, psychologique. Tu as besoin d'une guérison, d'une dépendance. Dieu peut te guérir. Mais c'est important de souligner, des fois, il y a des guérisons parce que tu dois aller voir un médecin. Et c'est correct aussi. C'est pas mal. Mais on peut aussi prier. Mais s'il y en a aussi ce matin, tu as besoin de cette guérison spirituelle. Tu n'as jamais eu cette rencontre avec Jésus. Tu n'as pas cette paix que Christian a, que mon ami qui est décédé avait avant de mourir. Et je te souhaite ça ce matin, le plus grand souhait pour toi ce matin, c'est que cette paix, tu puisses te l'accaparer. C'est tellement essentiel. Puis chouette, moi je priais, puis à chaque fois que je me prépare pour un message comme ça, je suis anxieux parce que je me dis, je ne veux pas que les gens quittent et qu'ils ne partent pas avec cette paix. Si tu viens pour la première fois ce matin, tu es en visite, ou ça fait des années que tu viens à l'église, mais tu n'as jamais prié, accepté cette paix, ce matin, je veux t'encourager à le faire. Je vais nous inviter à juste courber nos têtes, fermer nos yeux. On peut se lever en tant qu'église, mais juste garder une attitude de recueillement, alors qu'on ferme nos yeux, alors qu'on... Si tu es chrétien, tu peux prier. Prier pour les gens qui sont autour. Prier pour quelqu'un qui a besoin d'une guérison dans ton cœur. Ce matin, on veut prier pour toi. Si tu as besoin d'une guérison ce matin, je vais t'inviter à avancer. Si tu as besoin d'une guérison ce matin, je vais t'inviter à juste venir à l'avant. Si tu as invité quelqu'un, je vais t'inviter à te lever avec cette personne puis à venir à l'avant. Et en solidarité, Mosaïque, si on peut tous se lever, si on peut tous se lever par guise d'encouragement pour quelqu'un qui est là et qui n'ose pas venir à l'avant, pour l'encourager qu'on est avec elle. Ce matin, je t'invite à juste venir à l'avant. On veut prier pour toi. Il y a une équipe de prière qui va être là, qui va prier pour toi. Tu as besoin de guérison. Tu peux avancer juste ici. On va prier pour toi. On garde une attitude de vraiment recueillement. Peut-être que tu es gêné. Transgresse tes propres règles de ce que ça va marcher. Tu as besoin d'une guérison physique, émotionnelle, une guérison face à une dépendance. On veut prier pour toi. On est là pour ça et Dieu peut te guérir. Ne sois pas gêné. Que cette femme soit une inspiration pour toi. Tu peux venir à l'avant. Merci à ceux qui avancent. Dieu guérit encore. Ne sois pas gêné. Tu le fais devant Dieu. Avance pour voir cette guérison. Alors qu'on va chanter ce chant dans quelques instants, je te prie juste... Je vais inviter l'équipe de prière à s'approcher pour prier pour ceux qui sont en avant. Mais peut-être je vais t'inviter toi. Je vais t'inviter toi, peut-être besoin de cette paix. Tu as besoin de cette guérison face à cette paix. Tu ne connais pas ce Jésus. Je t'invite à avancer, à transgresser tes règles de « oui, mais est-ce que ça m'engage à quoi? » Fais juste avancer devant Jésus. Tu le fais devant lui ce matin. Puis on va chanter ce chant alors qu'on prend un moment de prière pour ceux qui en ont besoin. Puis alors qu'on va commencer à jouer, à chanter, tu peux encore avancer. Ou si tu n'es pas à l'aise, tu peux juste lever ta main. Il y a des gens qui vont s'approcher de toi pour prier pour toi ou la personne qui est à côté de toi. Tu peux juste lever ta main. Tu dis, moi, je ne suis pas à l'aise de venir à l'avant, mais je lève ma main pour qu'on puisse venir prier pour moi. Il n'y a pas de problème, ça se fait. On chante ce chant ensemble, on loue ensemble, puis on va prier pour vous, pour ceux qui ont avancé.